Bonjour, nous commençons donc le commentaire de la Haftara de cette semaine Chayé Sara. Le pshat est simple. Le roi David est âgé, il est fatigué, il est très affaibli même, tout à fait à la fin de sa vie. Il semble physiquement vraiment très malade. Son entourage s'inquiète pour sa santé et en même temps pour la succession royale. Ce que raconte cet extrait des prophètes, c'est que David ne parvient même pas à se réchauffer lui-même, il a très froid, et même si on le couvre de couvertures, de vêtements, etc., eh bien, il a toujours très froid. L'histoire raconte, le texte raconte que ses médecins, ses serviteurs, lui ont proposé de trouver une jeune fille pour le réchauffer. Et c'est Avishag, la Shunammite, qui a été choisie. Donc c'était en fait, on sait par ailleurs que c'est la sœur de la Shunammite que l'on a rencontrée dans une précédente Haftara. Donc le roi David était vieux, avancé en âge, et comment comprendre cette chose-là? En fait, si on s'en tient au texte, il était effectivement très malade. Si on s'en tient à l'explication du contexte, on ne comprend pas qu'il soit à cette époque-là aussi malade. On sait qu'il n'avait que 70 ans au moment de son décès. Et 70 ans, certes, c'est âgé, mais pas tant que ça à cette époque. Avishag avait abordé la question d'un mariage avec le roi, et le roi lui a dit, non, ce n'est pas possible, car j'ai déjà le nombre maximale d'épouses pour un roi, c'était 18. Et il était hors de question pour David de répudier sans raison l'une de ses précédentes épouses. Donc, en fait, malgré ce que l'on peut comprendre de ce verset, le roi n'a absolument pas touché à Abishag. C'était en fait, elle est devenue une des épouses de son fils Shlomo ultérieurement. Et évidemment, ça aurait été totalement interdit halakhiquement si le roi David avait eu des relations avec cette jeune fille. Bon, on a donc un niveau d'interprétation qui doit être activé. Comment se fait-il que l'on ait ce pshat qui nous explique qu'il était très malade, alors qu'en fait, on sait qu'il ne pouvait pas l'être autant, puisque le jour même de sa mort, il descendait des escaliers pour aller au jardin. Et il est mort simplement parce que l'ange de la mort n'arrivait pas à le faire mourir, car il y avait toujours des paroles de Torah dans sa bouche, et il a rusé, il a cassé une branche, il a fait un bruit dans le jardin. David, surpris, s'est interrompu. Et du fait de cette interruption, l'ange de la mort a pu récupérer son âme. Ainsi, il était en forme. Ce n'était pas du tout un vieillard sénile. On a une autre, comment dire, une autre affaire avec ça, c'est que on nous a dit qu'il était froid, qu'on le couvrait de vêtements. Et tout cela nous semble, nous laisse en définitive un peu perplexes, parce que, comme se demande le Rav Aviner, est-ce donc un palais royal ou un asile du troisième âge en difficulté financière, incapable d'offrir un bon chauffage? Effectivement, on était dans le palais royal. Alors d'où venait ce froid? C'était donc un froid intérieur. Pour comprendre cela, on doit faire l'usage du remèze, des allusions, et non plus du pshat, du sens littéral. Alors qu'il était poursuivi par le roi Shaoul, qui en voulait à sa vie, dans une période précédente, longtemps avant, bien sûr, dans sa jeunesse, eh bien, le roi Shaoul a eu l'occasion de, disons, de faire ses besoins dans une grotte. Bon, très, très pudique. Il s'est retiré dans une grotte, loin des regards de tout le monde, et même dans la grotte, il y avait une deuxième grotte, et il a été à l'intérieur de la deuxième grotte. Mieux encore, il a mis devant lui, entre lui et l'extérieur de la grotte, son manteau. pour qu'il soit véritablement à l'abri de tout regard accidentel. David a su, par ses soldats, que le roi Shaoul s'était isolé. Et donc l'occasion était merveilleuse pour se débarrasser de cette menace constante que faisait peser sur lui Shaoul. Il a donc été jusqu'à la grotte, il s'est introduit subrepticement à l'intérieur de la grotte, et en fait, il n'a pas voulu tuer le roi, il s'est contenté de prendre un morceau de son vêtement. Eh bien, un morceau de son vêtement, c'est justement, c'était une faute en fait, parce que ce morceau de vêtement, ce n'était pas un morceau ordinaire, ce n'était pas sur le côté, par exemple, c'était un coin avec un tzitzit. Et donc, il avait dégradé le manteau royal. Et c'était vraiment pas convenable. Une deuxième raison vient expliquer le froid qui saisissait le roi David lors de son vieil âge. À un moment donné, Hachem a envoyé la peste et 70 000 hommes sont morts. Un passage biblique explique que cette mortalité était en rapport avec un recensement décidé par David. Or, cette décision était fautive, puisqu'elle ne respectait pas la loi sur le recensement, qui consiste à recenser les Juifs en comptant non pas les têtes, mais les pièces de monnaie. Or, ce dénombrement n'était pas même nécessaire du point de vue militaire. Donc, en prenant conscience de sa faute, David se repent. Mais l'ange ayant été lâché, eh bien, il a, comme on l'a dit, tué énormément de monde, et apparaissant à David, il a essuyé son glaive sanglant sur l'habit de David. Et le roi en a été glacé d'effroi jusqu'à la fin de ses jours. Voilà donc une seconde raison avancée par nos sages pour expliquer le grand froid ressenti par David. Nous sommes donc en présence d'une inquiétude spirituelle et non de symptômes liés à l'âge ou à l'état de santé de David. Ainsi, cela nous fait conclure, hein, tout simplement ce sujet, que David, quoique vieux et rassasié en jours, comme nous dit le texte, eh bien, il était loin d'être sénile. Et en fait, on voit même dans Dibré Hayamim, dans les chroniques, une phrase comme quoi, et le roi David se leva sur ses pieds et il dit, etc., etc. Voilà donc ce sujet qui se termine. Et je vais en commencer un autre, qui est celui de la succession. Car cette haftara nous présente un problème de succession. Le roi étant considéré comme malade et mourant, eh bien un des fils de David, c'était l'aîné des fils de David encore vivant, il a réuni autour de lui le chef des armées, le grand prêtre, toute une série de personnes importantes, et il s'est proclamé pratiquement successeur. Il n'a pas convié le prophète Nathan, il n'a pas convié son frère Shlomo. En fait, on était à une époque où Israël devait choisir, après David, quelle route emprunter, quel style de monarchie mettre en place. Cela pouvait être, comme pour toutes les autres nations, un roi fort, pouvant accomplir ses fonctions militaires et politiques. Mais aussi, cela entraînait l'abandon de la mission spirituelle d'Israël, mission indispensable pour que soit dirigé le peuple en fonction de la loi divine. Or, Israël n'est pas un pays comme les autres. Et David n'était pas un roi comme ceux des autres nations. Certes, c'était un héroïque chef de guerre. C'était un roi qui a consolidé son royaume, qui a obligé ses voisins à le laisser en paix. Tous les grands rois agissent ou tentent d'agir de la sorte pour le bien de leur pays. Mais David avait des qualités supplémentaires. Il a été choisi par Dieu à cause de ses qualités supplémentaires pour être placé à la tête de cette nation et également pour être l'ancêtre du Messie. C'était un tzaddik à l'intense vie spirituelle. Il prônait l'étude de la Torah, il prônait la pratique des mitzvot. Il avait la capacité de satisfaire aux exigences de deux mondes différents, celui de la vie matérielle, diriger un royaume, commander une armée, et celui de l'étude de la Torah. C'était le style de roi idéal pour Israël. Il avait la crainte de Dieu. Par ailleurs, c'était aussi un musicien talentueux, un poète, c'était l'auteur de la majorité des Tehillim. Mais il a mis sa sensibilité artistique au service de Hachem. Au contraire de David, Adonia, c'était certes ça pouvait être un roi fort physiquement. Pour n'importe quelle nation, ça aurait été un roi parfait, mais pas pour Israël. Et c'est pourquoi le prophète Nathan ou le chef militaire Benaïaou savaient que Adonia ne pourrait pas convenir. Et d'ailleurs, comme Adonia savait bien qu'il ne lui était pas favorable, ils n'ont pas été conviés à ce banquet. Choisir entre Adonia et Shlomo, ce n'était pas choisir entre deux individus seulement. C'était choisir entre deux styles de royauté. C'était choisir entre deux types de rois d'Israël. L'héritage de David impliquait la capacité de chef des armées, mais l'héritage de David impliquait aussi des qualités personnelles de roi tzaddik, un juste. Et David pouvait fusionner ces deux qualités. Or, avec Adonia, c'était ne choisir que la moitié des qualités de David. Ça aurait été un excellent chef de l'armée, ça aurait été un excellent roi du point de vue des nations. Mais choisir Shlomo, le roi Shlomo, c'était au contraire suivre les traces de David dans la direction du roi tzaddik. Et d'ailleurs, on le voit. Dès son ascension sur le trône, le roi Salomon a mis toute son énergie à la construction du Beth Amikdash pour faire aboutir le rêve de son père. Donc, on se retrouve avec une histoire de coup d'État quelque part, ou de succession accélérée, mais Nathan, le prophète, s'en rend compte, il en informe Bethsabée, c'est-à-dire Bathsheba, qui était une des épouses du roi David, et c'était la mère de Salomon. Et dans cette crise politique, dans cette lutte de succession, l'enjeu était, est-ce que le roi David va être fidèle à sa promesse, parce qu'il avait promis que David serait son successeur. L'œuvre politique et militaire de David a été considérable. Il a fait quantité il a guerroyé sur les frontières, il a mis en place l'indépendance de son royaume, il a mis en place un essor économique, des relations commerciales avec la Phénicie, avec d'autres pays. Il savait qu'il lui restait à développer une dimension spirituelle. Il restait à construire le temple Beth Amikdash, et cela, il ne l'a pas pu. Par contre, dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, il s'est consacré à la préparation de la construction du temple, à l'organisation des Lévim, à l'organisation de la justice. Et nous avons d'ailleurs un testament spirituel du roi David. C'est une prière qu'il a écrite et qui est rapportée dans Divrei Hayamim, c'est-à-dire les chroniques. Il dit: Béni sois-tu, Hachem, Dieu d'Israël, notre Père, de tout temps et pour toujours. À toi, Hachem, est la grandeur, et la force, et la gloire, et la splendeur, et la majesté, car tout dans les cieux et sur la terre est à toi. À toi, Éternel, et le royaume, l'élévation, comme chef sur toutes choses, et les richesses et la gloire viennent de toi, et tu domines sur toutes choses. Et maintenant, ô notre Dieu, nous te célébrons et nous louons ton nom. Et il énonça des recommandations fermes sur l'importance du respect des mitzvot. Le judaïsme, ce n'est pas une religion intellectuelle où on jongle avec des concepts et l'on réfléchit, l'on forme des paroles. Il y a des actes à mettre en œuvre, à pratiquer, et comme nous le dit justement David dans ce passage de Divrei Hayamim, garder et rechercher tous les commandements de Hachem, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le transmettiez en héritage à vos fils après vous, pour toujours. Il y a là une recommandation importante pour ses contemporains, mais aussi pour toutes les époques. La pratique des mitzvot a une valeur qui dépasse le seul point de vue spirituel. Comme le proclame David, afin que vous possédiez ce bon pays. La pratique des mitzvot est bien inséparable du maintien du peuple d'Israël sur sa terre. Voilà donc pour ce contexte du coup d'État raté et de l'opposition entre les prétendants Adonia et Shlomo. Au niveau des allusions, Adonia c'est le remès de l'ambition démesurée. Shlomo, au contraire, c'est le remèze, l'allusion à la sagesse divine. Et l'initiative d'Adonia, elle échoue car elle est fondée sur l'ambition et non sur la volonté céleste. Or, le royaume d'Israël, la royauté en Israël, est donnée à celui qui incarne les valeurs divines. Notons que les sages ont insisté sur le fait que le prénom d'un enfant est directement inspiré aux parents par Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Ils enseignent que le nom d'une personne a une influence sur la personne elle-même. Et qu'en est-il dans le cas d'Adonia? Eh bien, on découvre que ce nom en lui-même, c'est un remèze, c'est une source de signification. L'allusion est claire. Les trois premières lettres du tétragramme, ainsi que les trois premières lettres du nom Adoshem, sont dans ce nom d'Adonia. Mais ce qui manque, c'est la quatrième lettre représentant la sphère de la royauté, selon la Kabbalah. Il n'était donc pas destiné, Adonia, à monter sur le trône après son père David. Voyez-vous, son nom lui-même aurait dû lui faire comprendre que la royauté n'était pas pour lui. Au niveau du drache, de l'interprétation homilétique de ce passage, on constate que David reste fidèle à sa parole. Et on constate aussi une chose assez étrange. Bathsheba s'est écriée: Vive à jamais le roi David, mon Seigneur! Étonnant. Très étonnant cette bénédiction, alors que le roi est visiblement sur le point de quitter ce monde. C'est même à cause de ce départ imminent qu'il a désigné un successeur. En fait, la tradition rabbinique explique que ces mots, Vive à jamais le roi David, ces mots concernent le monde des âmes. Bathsheba annonce qu'elle est persuadée qu'un être humain a la possibilité de vivre après sa mort s'il laisse après lui un descendant. Un descendant qui peut être un enfant, mais qui peut être aussi un descendant spirituel, un élève par exemple, apte à poursuivre sa mission. Cela peut être donc un descendant direct, ou des élèves, ou même des personnes qui ne l'ont pas connu, mais qui citent les enseignements du défunt. À ce propos, on a une petite histoire qui mérite d'être racontée parce qu'elle a été transmise par un rav d'Israël à qui elle a été rapportée. Voici cette histoire. C'était celle d'un cordonnier qui avait travaillé dur toute sa vie pour élever sa famille. Mais il n'avait jamais eu le temps d'étudier la Torah, ni même la Halakha. Une fois vieux, bien malade, il a compris que ses jours étaient comptés. Et en faisant le bilan, il s'est dit que il n'aurait rien à présenter au tribunal céleste parce qu'il n'avait rien à emporter de son étude. Il n'y avait pas eu d'étude. Alors, pris de crainte, Il s'est rendu à la yeshiva de sa ville et il a parlé avec le Rosh Yeshiva en lui demandant de bien vouloir accepter de l'argent pour la bibliothèque de son école. Le Rosh Yeshiva l'a remercié en lui disant: « Mais c'est merveilleux que tu sois venu. Justement, nous commençons un nouveau sujet halakhique sur les lois du mariage. Mais notre bibliothèque n'a pas assez d'exemplaires des ouvrages nécessaires pour tous les élèves. Eh bien, grâce à cet artisan, il a pu acheter suffisamment de livres et l'étude fut menée à bien. Quelques mois plus tard, l'artisan a quitté ce monde. Et quelque temps plus tard encore, une nuit, il est apparu en rêve au Rosh Yeshiva, en train de réciter par cœur le contenu des livres qui ont été étudiés grâce à sa générosité. Grâce à sa générosité, des livres ont été achetés. Grâce à sa générosité, des livres ont été étudiés. Et voilà que lui, qui n'avait jamais participé à cette étude, il apparaît en rêve au Rosh Yeshiva en train de réciter le contenu de ses livres, comme s'il maîtrisait absolument la totalité de ce sujet. De cela, on apprend que le mérite ne s'acquiert pas seulement par le mérite de ses descendants ou par le mérite de ses élèves, mais aussi par ceux qui ont pu eux-mêmes mériter grâce à la générosité du défunt. Bon, cela illustre bien le sujet abordé précédemment. Et donc, Bathsheba a été rassurée. Puisque Shlomo allait être le roi qui succédera à David, eh bien, l'œuvre de David, roi tzaddik, pourrait continuer. Et c'est pourquoi elle a dit cette bénédiction: vive à tout jamais, vive David, malgré le moment où il devait partir. D'ailleurs, quand David doit partir, que dit-il? Je vais emprunter le chemin de la terre. Anochi oler baderech kol haaretz. C'est-à-dire le chemin que tout être humain doit suivre un jour après 120 ans. Ce faisant, il emploie le mot oler. Or, seuls les vivants peuvent marcher. Qu'est-ce que cela signifie? Alors qu'il parle de sa mort, il dit qu'il va marcher physiquement. Oler. Il ne faut bien entendu pas comprendre ce mot au niveau littéral, mais au niveau d'une allusion. Il s'agit de marcher selon les prescriptions divines telles que formulées dans la Halakha. Cela laisse entendre, Anochi Oler, ça laisse entendre que David va continuer à marcher même après sa mort, car ce qu'il va laisser après lui, ses enfants, ses disciples, ceux qui suivent ses enseignements, ceux qui lisent ses Tehillim, tout cela vont lui permettre de bénéficier de leur mitzvot, de partager leur mitzvot, après, non pas de partager, mais de contribuer à. Ils vont lui faire bénéficier de ses mitzvot, même après son départ de ce monde. Et voilà ce que nous enseigne ce sujet. Et comme toujours, quand on sait regarder attentivement les mots qui sont écrits, eh bien, on ne peut ne pas réagir quand on dit vive David alors qu'il est sur le point de mourir, ou David dit je vais à Niolaire alors que seuls des vivants marchent. Toutes ces implications sont très riches de sens. À côté de cela, on a bien entendu la quatrième dimension de la Torah, le sod, le mystère ou la kabbale, comme on voudra. Et on a une tentative d'Adonia de s'emparer du trône. On l'a dit, bien sûr. Mais ça veut dire quoi du point de vue du sod? Eh bien, cela veut dire que l'on a affaire à une distorsion dans la Sefira Malchut. C'est la dimension de la royauté, mais qui se met. Qui a une tentative qui vient. Bon, pour comprendre ces sujets difficiles, et nous ne sommes pas kabbalistes, et nous ne pouvons pas rentrer dans des sujets que nous ne pouvons pas maîtriser, mais par contre, il y a des éléments minuscules que l'on peut déjà commencer à éclaircir pour toucher un petit peu de cette signification et de cette compréhension. Bon, on a un concept kabbalistique qui est celui de Séphirot. On parle de 10 émanations par lesquelles Hachem se manifeste dans le monde. 10 attributs divins qui structurent la création. On est en train de parler de l'architecture spirituelle du monde et de la création d'Hachem. Et Dieu est relié au monde et à l'être humain par ces 10 émanations. On parle d'arbre de vie, que les kabbalistes représentent même par un graphique, et si l'on descend de ce graphique, disons si on descend les 10 émanations une après l'autre, c'est le chemin de la création. Dieu descend vers le monde. Et si au contraire, on le considère du bas vers le haut, c'est l'homme qui s'élève vers Hachem. Alors, ces séphirot ont des noms. Keter, c'est la couronne. Chochma, c'est la sagesse. Bina, c'est l'intelligence. Hesed, c'est l'amour, la bonté, la générosité. La gvura, c'est la rigueur, la force, la discipline. Tiferet, c'est la beauté, l'harmonie, la compassion. Netzah, c'est la victoire, la persévérance, l'ambition. Hod, la gloire, l'humilité, la reconnaissance. Et Yesod, c'est la fondation, le lien, la communication. Et Malchut, c'est le royaume, manifestation de la réalité physique, dans la réalité physique, disons. La confirmation que Shlomo est un successeur et le successeur de David va restaurer l'harmonie entre toutes ces émanations divines, créant un canal entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. David incarne la Malchut. Shlomo incarne la Chochma. Et le rééquilibrage, grâce à la nomination de Shlomo comme successeur, ce rééquilibrage va permettre à la royauté terrestre d'être un reflet de la royauté céleste. Voilà quelques petites indications qui nous donnent quand même une perspective sur des éléments de compréhension qui vont bien entendu bien au-delà du pshat, du remez et du drash. Cette haftara a donc une plus vaste signification qu'un épisode politique, qu'une crise de succession. C'est un tikkun, c'est une réparation spirituelle au niveau de Malchut, permettant la descente de la royauté divine dans le monde. Et de fait, Shlomo HaMelech est vu comme un archétype du roi messianique. Il incarne la plaie, la paix, le shalom, la sagesse. Son règne a été d'ailleurs marqué par l'harmonie entre les nations et par une prospérité aussi bien matérielle que spirituelle. C'est le successeur de David qui a permis la perpétuation de l'héritage spirituel de son père. Il a été un modèle de roi tzaddik, un précurseur de ce que nous verrons bientôt avec le Mashiach, bientôt et de nos jours. Merci.